est une rediffusion.
RFI. Ça, c'est le Los Mineros. C'est l'ancien bar des chercheurs d'or, le bordel et la prison.
C'est pas du vent.
Non, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress.
C'est intéressant.
C'est pas du vent.
Bien sûr.
Bueno, aquí lo más importante es la gente.
Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, qui mange du chocolat? Eh bien, essentiellement les Européens. Et qui produit le cacao? Eh bien, essentiellement les Africains. Une production importée par la colonisation, car à l'origine, la fève de cacao est sud-américaine. Les Aztèques et les Mayas en raffolaient. C'est d'ailleurs en Amazonie brésilienne que nous allons vous emmener aujourd'hui à la découverte de producteurs qui récoltent les fèves de cacaoyers sauvages et qui vivent décemment de leur travail. Un exemple inspirant peut-être pour le Ghana et la Côte d'Ivoire qui produisent les deux tiers du cacao mondial et dont plus de la moitié des planteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Quelle réalité sociale et environnementale se cache derrière la douceur d'un carré de chocolat? Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Bonjour Frédéric Amiel.
Bonjour.
Vous avez mené de nombreuses études sur la filière cacao. Alors tout d'abord, on va planter le décor. Qui produit quoi? Je le disais, c'est essentiellement le Ghana et la Côte d'Ivoire qui produisent le cacao au niveau mondial aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, on a coutume de citer ces deux pays hein, qui, comme vous l'avez dit, représentent deux tiers de la production mondiale. C'est vraiment, je dirais, les berceaux aussi historiques de la production massive de cacao. Mais derrière, on a un pays comme l'Indonésie qui est peu connu, qui produit beaucoup pour le continent asiatique, et puis d'autres pays africains comme le Nigeria et le Cameroun, et puis derrière, quand même les pays d'Amérique latine, mais qui se classent plutôt dans la deuxième moitié des 10 premiers producteurs mondiaux.
Et alors, on ne parle pas forcément du même cacao, hein. Il y a différents types de cacao pour différents types d'utilisation.
On classe le cacao soit selon les variétés. En gros, il y a trois grandes variétés de cacao. On en parlera. Il y en a une qui est originaire effectivement d'Amazonie, comme vous l'avez évoqué. Après, il y a aussi différentes qualités de cacao. On parle de cacao fin ou de cacao standard. Il y a différents types de fermentation, etc. Donc, le cacao est un produit alimentaire, comme le vin, je dirais, qui peut développer aussi différentes qualités selon la façon dont il est traité. Et donc ça va déterminer aussi le prix du cacao et sa valeur marchande, mais aussi sa qualité gustative.
Il y a une demande qui est croissante sur le cacao. On mange de plus en plus de chocolat dans le monde, soit sous forme de tablettes, soit beaucoup aussi dans l'industrie agroalimentaire.
Oui, la demande de cacao, elle augmente régulièrement depuis une trentaine d'années. Alors on parle souvent de l'émergence de nouveaux marchés de consommation, notamment en Asie, mais il y a aussi une consommation, notamment dans les pays producteurs, qui n'était pas forcément présente auparavant. Je pense à l'Afrique en particulier, puisque l'Amérique latine était quand même traditionnellement consommatrice de cacao. Mais il y a une consommation notamment de chocolat tablette, qui était un peu l'apanage de l'Europe, et notamment de la France, pendant longtemps, et qui commence à se développer dans d'autres pays, et qui participe à l'augmentation de la consommation de cacao.
Et la Chine a découvert le chocolat aussi, à travers notamment les gâteaux, c'est ça ?
Oui, alors bon, ça c'est quelque chose effectivement qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, la consommation de cacao, c'est très peu des tablettes de chocolat. Ça, c'est une spécificité très française, un peu suisse, belge, et puis je dirais c'est une consommation presque de luxe, en tout cas c'est une consommation marginale en Asie, au Japon, en Chine, aux États-Unis, mais c'est une très faible part de la consommation mondiale du cacao. La consommation mondiale du cacao, c'est des produits cacaotés. C'est des produits qui ont moins de 30% de cacao, c'est des gâteaux, des gâteaux fourrés, des poudres pour le petit déjeuner, etc. La majorité du commerce mondial de cacao, c'est ce chocolat-là ou ces produits chocolatés. Et c'est là, essentiellement, que va la massive production ivoirienne et ghanéenne.
Alors, l'impact environnemental et social de cette production du cacao est souvent pointé du doigt. Alors, avant d'en parler, je vous propose de changer de continent, donc de quitter l'Afrique et d'aller plutôt dans le berceau du cacao, en Amérique du Sud, plus précisément en Amazonie brésilienne, où le cacao pousse à l'état sauvage. Et si l'état de Bahia, sur la côte du nord-est brésilien, est le plus réputé pour la culture des fèves, l'état du Pará, centré autour de l'estuaire de l'Amazone, est désormais le plus grand producteur du pays, avec une production estimée à 140 000 tonnes en 2020. Les communautés qui vivent sur les berges des fleuves, appelées les ribeirinhos, parviennent à tirer de juste revenu des cabosses de cacao en développant leur propre méthode de fermentation et en limitant le nombre d'intermédiaires. C'est la stratégie bean to bar, de la fève à la tablette, qui permet aux communautés de valoriser leurs produits, mais aussi de raconter leur histoire, de raconter leur rapport à la forêt et l'importance pour eux de protéger cet écosystème. Sarah Cozzolino est allée à leur rencontre.
On arrive en bateau à Barcarena, ça se trouve en face de Belém, à 1 heure de barque environ. On voit autour de nous la végétation typique de la région, beaucoup de palmiers qui sont dans un terrain assez vaseux, on appelle ça la varzea. On est venu tôt parce que on est presque officiellement dans la saison des pluies et il commence à pleuvoir assez tôt dans la journée. On va rencontrer Shiba, qui est un producteur de cacao sur l'île.
Shiba. Ah, prazer.
Prazer, todo meu. Bom dia.
Bom dia. Le port est aussi une gare routière, donc plein de bus tout autour de nous.
Vamos dar a volta là. Vamos poder pegar o barco. Pegar umas coisas aí na casa da minha irmã, tá?
On entre sur son bateau. Petite barque.
Ele solucionou todos os ribeirinhos.
Ça a été une grande avancée pour tous les ribeirinhos. Parce qu'avant ça, on ne fonctionnait qu'avec des rames. Aujourd'hui, on peut faire des trajets bien plus rapides. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai fait surtout pour pouvoir transporter des charges, de la saillie, du cacao. C'est pour ça qu'il est de cette taille. Cette île, c'est une véritable concentration de cacaoyers natifs. Il y a beaucoup de cacaoyers. Seulement, à cause du manque de connaissances et du nombre d'intermédiaires, dans certaines communautés, la culture du cacao est en train de se perdre au profit de la culture de la saillie. Mais moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là.
Shiba, c'est un surnom ou c'est votre vrai prénom?
Bon, mon nom c'est Manuel do Carmo Monteiro da Silva. Mais on me surnomme Shiba. C'est ici que je vis. Soyez la bienvenue.
Shiba nous reçoit dans sa maison sur pilotis faite de planches de bois et typique des habitations ribeirinhas du coin. À l'avant, le ponton, puis quand on entre, un petit espace pour stocker son cacao, une cabane pour la fermentation des fèves et une terrasse pour les faire sécher ensuite. Puis les chambres et au fond, la cuisine et un autre ponton qui donne cette fois accès à la forêt. Ici, les cabosses de cacao se cueillent 2 fois par an, en janvier et en juin. À chaque récolte, Shiba obtient environ 500 kg de cacao fermenté et séché.
Je cultive le cacao depuis que je suis né. C'est mon père qui m'a appris. À l'époque, la forêt était très dense et on n'intervenait pas. Elle était brute. Il y avait du cacao à grande échelle. Vraiment beaucoup, beaucoup de cacao. C'était très dense. D'ailleurs, ça me manque. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi, alors qu'on l'entretient, la forêt donne moins de cacao. Avant, les arbres se chevauchaient les uns les autres. Et sans qu'on l'entretienne, ça donnait beaucoup de fruits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est mon père qui m'a appris à cultiver le cacao. Ça fait longtemps qu'on cultive les cacaoyers, sauf que le prix était bien en dessous du marché, parce qu'on vendait notre cacao à l'intermédiaire, la personne qui traverse le fleuve. Et c'est lui qui gagnait le plus. Maintenant, c'est différent. D'ailleurs, j'ai même envie de faire mon propre chocolat. Pas pour le vendre à grande échelle, mais pour des amis, des visiteurs, parce que je sais que j'ai un produit de grande qualité et que je sais y faire. Mais j'apprends encore tous les jours.
Quer de café, garoto?
Ok.
Esse aqui é o meu ponto.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené là sur la table?
J'ai appris à caraméliser les fèves de cacao. Ça, c'est une fève, la même que celle qu'on trouve sous la pulpe. Mais elle n'atteindra ce point que si elle est bien fermentée, qu'elle suit un processus de fermentation fine. Vous pouvez en prendre une et goûter. Mais attention, ça peut aussi vous rendre accro. Ça va vous donner envie d'en reprendre encore et encore. Mais c'est bien, parce qu'avec ma méthode de fermentation, ces fèves ont déjà aidé des gens à éliminer des vers intestinaux. Comme ces vasodilatateurs, ça a guéri mes problèmes de pression artérielle. Et aussi, si vous avez du mal à aller aux toilettes, ça peut vous aider.
Comment vous avez trouvé cette forme de faire ces fèves de cette façon-là?
J'ai été invité par une universitaire à rendre visite à un chocolatier dont je n'avais encore jamais entendu parler. Chez lui, j'ai vu un bac de 200 litres coupé au milieu, avec ses fèves. Et j'ai demandé au chocolatier de Mendes ce que c'était. Et il m'a dit, si tu fais un cacao comme celui-ci, je te propulse en haut du marché. Et c'est là que le défi a commencé. Je lui ai demandé, tu peux m'apprendre? Et il a accepté. D'abord, il est venu passer 2 semaines ici. On est allé dans la forêt cueillir les cabosses à la maturation parfaite pour en faire une bonne fermentation. Mais à l'époque, je n'ai pas réussi à faire une fermentation de qualité parce que je n'avais pas la structure adéquate. Alors, il m'a dit qu'il reviendrait la semaine suivante. Sauf que quand il est revenu, moi, j'avais déjà cueilli le cacao et mis les fèves à fermenter. Il a donc trouvé le cacao déjà fermenté avec les fèves en train de sécher au soleil. Quand il a vu les fèves, il m'a dit « Shiba, je vais te prendre ce cacao, car c'est vraiment prometteur ». Ensuite, il en a fait du chocolat. Puis, il est allé à Paris, au Salon du Chocolat. Et là-bas, ça a été la grande surprise, parce qu'il a fait goûter mon humble cacao et les critiques y ont trouvé un arôme de fleurs. Et ce chocolat a été très remarqué cette année-là. Puis, De Mendes est venu me raconter cela. Et alors là, j'ai compris que oui, je faisais un produit de grande qualité, tout seul. Regardez, ça, c'est un autre type de cacao. On l'appelle le cacaoui. Il est un peu plus fragile, en forme d'étoile. Mais bon, là, il n'est pas encore mûr.
Quelle taille fait votre terrain?
Au total, j'ai 50 hectares.
Est-ce que vous avez déjà compté le nombre de pieds de cacao que vous avez?
On n'a pas terminé de compter. On est arrivé à environ 1700, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas terminé. Il en reste encore beaucoup à compter.
Vous connaissez le nom de cet oiseau qu'on entend?
C'est un toucan. Presque tous les oiseaux que vous entendrez ici, je connais leur nom. Quasiment tous. Regardez ça. Les indigènes râpaient le manioc sur les racines de cet arbre. Il s'appelle l'arbre qui marche. Parce qu'il commence à pousser à un endroit, regardez, juste ici, et puis il commence à se déplacer avec ses racines par là-bas. Bientôt, il arrivera au cacaoyer là-bas. Celui-ci, c'est un tapereba. Je vais vous donner une de ces prunes.
Cette année, votre récolte de cacao, elle va être moins importante que l'année dernière?
Beaucoup moins, en effet. L'année dernière, c'était mieux, mais cette année, je pense que de façon naturelle, je vais déjà perdre 30%. Et puis, je vais devoir partager avec les singes. Je vais en garder 40%. Et les singes en prendront environ 30%. Les bois les plus nobles qu'on trouve dans ce sol vaseux ont tous été vendus, comme le bois d'Andiroba ou le Prakuba, beaucoup de bois nobles. Alors aujourd'hui, on veut m'en acheter, mais je refuse, parce que c'est pour le futur. Les enfants de mes enfants voudront les connaître, et ils ne pourront pas si on ne les préserve pas. Donc c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui.
Thank you.
Travailler avec un chocolatier d'Amazonie comme Demendez a permis à Shiba de ne plus dépendre de l'intermédiaire qui fixe le prix du cacao au plus bas. Il peut désormais se dégager un revenu plus important en dehors de la période de récolte de l'açaï, cette baie à la base de l'alimentation des habitants du Pará qui se cueille d'août à décembre. Nous sommes dans la campagne de Santa Barbara, petite ville située à une soixantaine de kilomètres de Belém, la capitale de l'état du Pará.
Ici, c'est ma petite ferme. Il y a 3,5 hectares. Ah, c'est le mec du cacao de Curitiba. Je vais répondre.
Tout bon? Qu'est-ce que c'est, amigo? Tu encontres un fruit maduro ici, acolá, mais le grosso, la grande quantité, on va dire.
J'ai trouvé quelques cabos mûrs par-ci par-là. Mais disons que la majorité des fruits seront prêts pour la fin janvier. J'ai vu avec Shiba l'autre jour. Il va un peu me fournir, mais je n'en ai pas besoin de beaucoup car j'ai encore un stock de son cacao.
Mais c'est bon, mon ami.
500 kilos, ça m'ira parce que je vais attendre la prochaine récolte. Voilà, mon ami. On s'en reparle bientôt. Je m'appelle César, César de Mendes, mais les gens m'appellent seulement de Mendes. Le produit chocolat, sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, n'est ni américain, ni latino, ni brésilien. C'est un produit européen, développé par messieurs Lindt et Nestlé à la fin du 19e siècle. Donc les Européens ont une grande connaissance, une grande tradition du chocolat, et le font très bien. Alors soyons d'accord, je n'ai pas du tout la prétention de disputer le marché européen, le savoir-faire européen, la culture européenne du chocolat. Mais j'ai quelque chose que les Européens n'ont pas et n'auront jamais, parce qu'ils n'ont pas une Amazonie sous leurs pieds, d'où le cacao est originaire. D'autant plus que l'Amazonie attire l'attention du monde pour tous ces problèmes liés à la déforestation. Et le cacao peut être un moyen de montrer que ça peut être viable de garder cette forêt sur pied et que ça peut être rentable, qu'on peut faire du vrai commerce sans déforester et tout en préservant la culture des peuples traditionnels. Aujourd'hui, ma position tend plus vers cet idéal plutôt que celui d'un scientifique dans son laboratoire, dans son atelier en train de faire du chocolat fin. Évidemment, je fais du mieux que je peux avec les limites matérielles qui sont les miennes. Mais aujourd'hui, je travaille surtout avec le cacao et le chocolat comme un moyen d'amener ces histoires et lutter un peu contre tous ces maux qu'on vit aujourd'hui, surtout avec ce gouvernement voyou.
Avant de vous rencontrer, j'ai été sur votre site, sur la boutique, où on voit les différentes barres de chocolat qui ont un nom. C'est le nom de la personne qui les produit et des coordonnées géographiques. Donc pour vous, ce lien avec l'endroit où le cacao est produit est très important.
C'est une nécessité. On a choisi de faire ça pour valoriser les communautés. On estime que les vrais acteurs, ce sont eux, pas nous. Ceux qui font le gros du travail, le plus dur. Donc, quand je mets ces coordonnées géographiques, c'est pour montrer les spécificités d'un territoire. Je parle d'un peuple en particulier, de personnes en particulier. Je mets le nom de ces personnes pour qu'on sache qu'il n'y a pas d'erreur, que ce sont ces personnes. On peut communiquer avec elle, vérifier, aller là-bas, discuter avec elle. Si on regarde les parts de revenus dans la chaîne du cacao, seulement 7% reviennent aux producteurs, à ceux qui sont à la base du produit. Alors que le commerce, où il sera vendu, gardera 43%. C'est pour ça qu'ici, on essaye de payer aux producteurs au minimum le double de ce que le marché le paierait. Si le marché le paie 10 réals, on le paie 20, au minimum. C'est une façon de valoriser le territoire, de valoriser les personnes. Barcarena, c'est un endroit très intéressant. La partie de Barcarena, où nous achetons et négocions le chocolat, dans les communautés de Bom Jardim et de la rivière Araguaia, c'est une région de vase. C'est un sol argileux et inondable.
Inondável.
Donc, le cacao qui pousse là-bas est une variété très emblématique de l'Amazonie, qu'on appelle Maranhão.
Por volta do ano de 1640.
Autour des années 1640, ça a été le premier cacao du Pará et du Brésil à être exporté vers l'Europe. Il venait de cette région, autour de Belém, où on trouve ce type de sol vaseux. On l'appelait Maranhão, parce qu'à l'époque, tout ça faisait partie de l'état du Maranhão. C'est intéressant parce que le cacao que vous avez vu là-bas est natif de cet endroit. Il n'a pas été planté, aucune graine de l'extérieur n'a été plantée. C'est un cacao qui est là depuis très longtemps. Et c'est un cacao qui a de fortes notes de citron et qui est très savoureux. En fonction du processus de fermentation, on retrouve cette acidité à l'intérieur du chocolat, à travers le cacao. Parce que la fermentation est liée aux caractéristiques du sol, à la variété du cacao, l'incidence de la lumière, à la disponibilité en eau. Et il y a un cinquième élément déterminant, qui est l'équilibre microbien. Dans le monde, en général, on trouve 78 micro-organismes qui fermentent le cacao. En Amazonie, il y en a en moyenne 150. Je pense qu'il y a un potentiel fantastique. En termes sensoriels, en termes de qualité d'un produit qui se détache du reste. C'est très rare de voir des cacaoyers qui se développent quasiment dans l'eau. Tous les éléments, le sol, l'eau, la végétation que vous trouvez à Barcarena, on les retrouve dans le goût. Les notes gustatives qui apparaissent dépendent des caractéristiques du territoire. C'est local, c'est de Barcarena.
Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta.
Meu nome é Matheus Mendes, trabalho na chocolaterie.
Je m'appelle Matheus Mendes et je travaille dans la chocolaterie de Mendes depuis 2019. De Mendes est mon oncle et il m'a proposé de faire partie de l'entreprise. J'ai tout de suite accepté parce que j'adore être en Amazonie au milieu de la jungle et de la forêt. J'aime ce que je fais. Aujourd'hui, je m'occupe de l'usine, je coordonne la production.
Bon, on va visiter avec vous alors. C'est parti.
Voilà, les routes sont toutes cabossées, on va bientôt entrer sur les routes non goudronnées. Autour de nous, il y a des bananiers, beaucoup de végétation et des petites maisons bien espacées. Alors, on arrive à l'usine des Mendes. C'est une simple petite maison de briques peinte en blanc.
Nous avons loué cette maison et nous l'avons adaptée à nos besoins de production.
On sent déjà le chocolat.
Aqui é a primeira etapa da produção.
Ici, c'est la première étape de la production. On ramène la matière première des communautés qui ont déjà travaillé le cacao en faisant la fermentation et le séchage des fèves. On commence par faire une évaluation. On coupe les fèves pour mesurer leur degré de fermentation. Parce qu'il y a certains critères de qualité à remplir et s'ils ne sont pas atteints, les fèves retournent de là où elles viennent. Parce qu'elles ne correspondent pas à notre concept de chocolat fin. Ensuite, ici, on fait les premières étapes, la torréfaction et le décorticage qui nous donnera la peau et les nibs de cacao.
Alors, il fait bien plus frais là.
Oui, parce qu'on vit dans un environnement très humide. Et il faut retirer cette humidité parce que le chocolat et l'eau ne font pas bon ménage. Donc il faut en retirer le maximum. La clim empêche aussi la prolifération des insectes. Parce qu'on est dans un environnement naturel avec beaucoup d'insectes endémiques et il faut qu'on fasse attention à ça.
Onde vem o nibs de cacao.
Ici, c'est la salle de production numéro 1. C'est ici qu'arrivent les nibs de cacao après l'étape du décorticage. On les met dans ces machines pour déjà produire le chocolat. Ça, ce sont les meules, aussi appelées mélangées. Ce sont les machines qui vont moudre les nibs de cacao. Dans ce processus, les nibs vont libérer le beurre de cacao et le tout va former une pâte. Dans ces machines, on peut déjà faire le chocolat. On peut ajouter du sucre, du lait et d'autres ingrédients de la recette.
Da formulação. No nosso caso, a gente adiciona basicamente.
Dans notre cas, on ajoute seulement de la rapadura biologique. C'est du sucre de canne non raffiné. C'est pour conserver la grande pureté du cacao. C'est l'ingrédient principal de notre chocolat. Alors, il faut être cohérent et utiliser peu d'ingrédients pour ne pas dénaturer le cacao.
Essa sala aqui é uma sala de estoque.
Ici, c'est une salle de stockage. On stocke notre chocolat en tablette de 1 kg. Et quand on fait la tablette finale, on prend la grande, on la fait fondre, on fait le processus de tempérage pour donner plus de brillance au chocolat et une certaine résistance à la chaleur. Puis on le moule dans des tablettes de 50 grammes, notre produit final. Et ici, vous voyez que les grosses barres de chocolat, on les isole bien les unes des autres dans des caisses séparées parce qu'elles ont des saveurs, des arômes très spécifiques.
C'est marrant parce que là, quand on les voit, ces barres, on dirait presque des lingots d'or, sauf que c'est noir.
Na verdade, é muito comum escutar essa comparação de ser o ouro da Amazônia.
C'est vrai qu'on fait souvent cette comparaison. On parle de l'or de l'Amazonie. Parce qu'il vient du cœur de l'Amazonie, de communautés qui vivent dans la forêt et en dehors de la société. Donc, de fait, c'est de l'or. Il s'enrichit à chaque processus. Il a une valeur ajoutée très forte. Il est chargé de beaucoup de choses. Une tablette représente 20 communautés, 200 personnes, 100
000
hectares. Tout ça est contenu dans une tablette de chocolat. Elle est lourde de l'histoire qui se trouve derrière des personnes de la forêt. Et il faut qu'on valorise tout ça au moment où on produit la tablette de chocolat. Vous voulez goûter le chocolat ?
Donc 63%. Alors celui-ci vient d'où ? Ah, c'est celui de Shiba ?
Isso, é o nome da comunidade Bom Jardim.
Oui, c'est le nom de sa communauté Bom Jardim. C'est un chocolat avec 63% de cacao et le reste de rapadura biologique. C'est un cacao surfermenté, c'est-à-dire qu'il a passé un peu plus de temps à fermenter qu'habituellement. Donc on y trouve d'autres notes qui se différencient d'une fermentation standard. C'est à partir de celui-ci qu'on a décidé de faire un chocolat avec uniquement le cacao de Shiba, avec une teneur de 80%. Shiba est très inventif. Il a une vraie sensibilité pour faire des fermentations à des degrés différents, des durées plus ou moins longues, et c'est justement ça qu'on veut valoriser. À partir des connaissances que nous avons apporté dans les communautés, il a su évoluer et produire quelque chose qui lui est propre. Ici, vous retrouverez nos informations, notre logo, notre site internet, email, téléphone.
Tout ça dans une feuille de cacao.
A gente utiliza a própria folha do cacao desidratada.
On utilise la feuille de cacaoyer séchée pour y mettre nos informations de contact. Tout ça fait partie du même discours. En travaillant en Amazonie, on utilise tout ce qu'on peut ici, le plus possible. Donc voilà ce que le cacao nous offre aussi, notre carte de visite.
Les circuits se sont raccourcis, il est encore rare que la personne qui cultive le cacao soit aussi celle qui le transforme en chocolat. En Amazonie, le processus appelé de bean to bar, de la fève à la tablette, est plus courant que celui de tree to bar, de l'arbre à la tablette. Sur l'île du Combou, à une quinzaine de minutes de bateau de Belém, nous rencontrons Dona Nena, une ribeirinha qui fait son propre chocolat biologique. Tous les week-ends, elle organise des petites visites de sa maison atelier avec l'objectif de promouvoir un tourisme responsable dans un lieu où le tourisme sauvage commence à menacer l'écosystème de l'île.
C'est une dégustation qui me rappelle celle du vin, parce qu'on sent beaucoup de saveurs, des arômes différents qui ne sont pas toujours évidents. Mais on perçoit des notes fraîches, acides, sucrées, boisées. Moi, je suis une grande adepte du chocolat, de tout ce qui est chocolaté. Et c'est impressionnant quand on sent cette note acide au fond de la langue. Et puis, dès qu'on boit ou mange quelque chose avec, on sent qu'on commence à produire beaucoup de salive. Enfin, je trouve que ça ressemble beaucoup à une dégustation de vin. J'adore.
Plusieurs restaurants utilisent nos chocolats sous différentes formes, en créant des recettes à servir sous forme de dessert. D'autres revendent nos produits. Donc notre chocolat atteint différents endroits du Brésil, mais aussi du monde. Au Brésil, on en envoie par la poste, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent pour en acheter.
Meu nome verdadeiro é Izete dos Santos Costa.
Mon vrai nom est Izete dos Santos Costa. Mais je suis plus connue sous le nom de Dona Nena. Je suis née sur l'île de Combou.
Ça a été difficile pour vous en tant que femme et ribeirinha, donc personne qui vit au bord du fleuve, de vous inclure dans ce secteur?
Foi muito difícil primeiro, porque a gente é vista como doida.
Oui, très difficile. D'abord parce qu'on m'a prise pour une folle. Même ma famille ne croyait pas en moi. Mon mari n'y croyait pas, donc il m'a fallu beaucoup de persévérance. Au début, on n'avait même pas de bateau pour transporter les produits au marché. On devait appeler d'autres gens. Mais aujourd'hui encore, je ressens cette difficulté parce que malheureusement, je sens que le machisme est toujours tout puissant. Donc c'est très difficile en tant que femme de devoir coordonner plusieurs hommes et de leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce que souvent, les hommes n'acceptent pas que ce soit une femme qui commande. Mais après tout ce temps, ça fait un an que j'ai trouvé deux hommes qui travaillent avec moi et respectent ma volonté.
Pour vous, c'est important d'amener les consommateurs à vous pour leur faire visiter cet endroit où vous faites votre chocolat.
Oui, je pense que c'est très important. C'est une façon de montrer la culture du chocolat, notamment pour des familles qui ont des enfants, parce que les enfants sont habitués à avoir du chocolat en boîte. Donc pour eux, le chocolat se trouve sous cette forme. Ils ne connaissent pas le cacao. De cette façon-là, on se bat aussi pour que les gens prennent conscience de ce qu'est un bon chocolat.
On est encore obligé de s'interrompre à cause des bateaux qui passent. Là, c'est le McLaren d'Ocombu avec des touristes qui fument, des gens qui font un barbecue à l'arrière du bateau, qui boivent des bières. Voilà. Depuis qu'on discute, on a entendu beaucoup de bateaux passer, des bateaux taxis avec des touristes dedans. On entend au milieu des chants d'oiseaux de la musique au loin aussi, de restaurants. On est le week-end et les gens viennent ici aussi pour se baigner, pour manger quelque chose. Est-ce que le développement des activités touristiques ici, c'est quelque chose qui menace l'environnement, qui vous fait peur ?
Oui, ce tourisme sauvage nous inquiète beaucoup. Parce qu'en plus de menacer la faune, il dégrade la flore, principalement sur les berges des rivières. Aujourd'hui, on construit des barrières pour éviter que l'érosion atteigne nos maisons. Parce que l'érosion est de plus en plus présente. Elle s'accélère à cause de ces bateaux à grande vitesse.
Voilà, il y a un jet ski qui passe justement.
Voilà, on sait que ce genre de transport est interdit sur les cours d'eau. Mais malheureusement, la police fluviale n'est pas présente tout le temps, surtout pendant les week-ends ou les jours fériés, quand le nombre d'embarcations est plus important. Du jeudi au lundi, c'est intense. Ce n'est que le mardi et le mercredi que c'est un peu plus calme, parce que beaucoup de restaurants ferment. On a pas mal de problèmes avec des bateaux qui s'arrêtent ici, avec la musique à fond, qui organise des tours avec beaucoup de monde, des gens qui boivent de l'alcool. Et souvent, ça nous dérange plus que ça nous aide.
Então hoje foi criada uma associação para tentar preencher aquele terminal fluvial.
Une association a été créée pour essayer de maîtriser le terminal fluvial parce que la population est en train de perdre sa culture à cause de tout ça.
Hoje já não dá para pescar bastante camarão. As crianças já não.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus pêcher de crevettes ici. Les enfants ne peuvent plus jouer dans les petites pirogues parce que ça devient dangereux à cause des vagues provoquées par les bateaux. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, c'est plutôt tranquille.
Perto da época de temporada de férias, de verão forte.
Quand on s'approche de la haute saison, de l'été, c'est beaucoup plus intense. Il y a des allées et venues incessants. On se bat, on lutte contre ça. Mais malheureusement, cela n'avance pas assez vite.
Mas infelizmente, a gente avançou assim um pouquinho só. Quando você me deixou, eu quase chorei um rio de lágrimas. Descobri que é bobagem. Consegui me levantar.
Reportage de Sarah Cozzolino réalisé par François Porcheron. Frédéric Amiel, je rappelle que vous êtes chercheur, vous avez mené de nombreuses études sur la filière cacao. Comment est-ce que vous réagissez globalement à ce reportage ?
Bah, je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, enfin, dans l'histoire que raconte ce reportage, c'est que ça met en lumière plusieurs aspects cruciaux. De la filière du cacao, la question environnementale avec la déforestation, la question sociale, mais aussi, je dirais, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un produit de consommation, l'aspect gastronomique du cacao, notamment cette question importante de la fermentation, des goûts qu'on peut développer, etc. Et comme on le disait en introduction de l'émission, aujourd'hui, on a essentiellement un marché de cacao standard et une des pistes pour améliorer le niveau de vie des producteurs, mais aussi pour mieux rémunérer la protection des forêts, etc., c'est de mieux valoriser l'aspect gastronomique, d'avoir un cacao, un chocolat plus haut de gamme, qui se vend plus cher et qui, du coup, rémunère mieux l'ensemble de la filière.
Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer de telles pratiques en Afrique de l'Ouest? Je pense notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire, où c'est plutôt donc, une industrie du cacao massive.
Oui, bah, c'est pas du tout incompatible en soi. C'est-à-dire que on a coutume de dire que le cacao, enfin on entend parfois dire que le cacao ivoirien ou ghanéen est un cacao standard. C'est pas pour autant que c'est pas un bon cacao. Moi personnellement, c'est les goûts que je préfère dans le cacao, c'est les cacaos ivoiriens et ghanéens plutôt que ceux qui sont sud-américains, qui pourtant sont plus réputés sur le marché. Mais ils commencent à être mis en valeur. On commence à trouver des tablettes, y compris dans les grandes surfaces, pure origine Côte d'Ivoire, pure origine Ghana. Seulement, ça demande plutôt un aménagement justement du milieu de la filière. C'est pas tellement les producteurs qui doivent changer leurs pratiques. Alors bien sûr, on peut être plus écologique, on peut être plus juste, etc. Mais je dirais valoriser l'origine, c'est aussi améliorer la traçabilité de la filière. Et aujourd'hui, c'est le problème. En fait, ce n'est pas tellement la production de masse, c'est le stockage de masse, c'est la transformation de masse. C'est ça qui fait perdre les caractéristiques de terroir du cacao et qui fait perdre la valeur du cacao.
Alors, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont entamé un véritable bras de fer avec les industriels l'année dernière, notamment pour augmenter justement la rémunération de leurs producteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est aujourd'hui ? Enfin, ils ont gagné une partie de ce bras de fer. Mais quelle est la situation actuelle ?
Bah alors effectivement, en juin-juillet 2019, le Ghana et la Côte d'Ivoire, suite à plusieurs semaines de négociations serrées, ont réussi à obtenir la mise en place d'une prime C'est-à-dire qu'en plus du prix du marché du cacao, les exportateurs européens, nord-américains, vont payer une prime de $400 pour chaque tonne de cacao exporté. Et cette prime, c'est une prime qui est destinée directement et essentiellement aux producteurs de cacao qui sont censés améliorer leur niveau de vie. Là où on en est aujourd'hui, c'est que on commence à vérifier que cet engagement, ce qui a été accepté l'année dernière, est bien mis en œuvre par les exportateurs. Il commence à y avoir quelques litiges sur le fait que, en fait, des contrats qui avaient été passés avant l'accord sur la prime font pas l'objet de la prime, alors que selon l'État ivoirien, ils devraient faire l'objet, etc. Donc, on est, je dirais, dans la mise en place précise et le versement direct de ces primes. Donc, on va pouvoir vérifier non seulement si les exportateurs respectent leurs engagements, mais aussi si cette prime elle arrive effectivement jusqu'aux producteurs, puisque c'était une des grandes questions. Est-ce qu'une fois versée aux organismes de collecte, elle sera bien reversée aux producteurs, comme il en était question au départ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, le cacao, c'est une production cotée en bourse, hein, et souvent, en fait, l'essentiel des bénéfices ne reviennent pas, comme dans plein de filières, malheureusement, aux producteurs. Je crois que c'est en moyenne 6% seulement du gain global qui revient aux producteurs.
Oui, c'est ça. Alors, les estimations sont toujours un peu difficiles, puis il y a plein de situations différentes, mais on estime qu'on est en moyenne entre 6 et 7% du prix final d'une tablette de chocolat qui revient aux producteurs, ce qui est très faible, puisque par comparaison, on est à peu près à 40% de la valeur finale qui va aller au transformateur, à la marque de chocolat, 30% qui va aller à la distribution. Donc, bien sûr, ces 6 et 7% relativement sont très faibles, surtout quand on sait, vous le mentionnez également en introduction, qu'une grande partie des producteurs de cacao vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.
D'où la mobilisation du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont décidé de créer une espèce d'OPEP du cacao, hein, pour, c'était leur expression, pour essayer de défendre des prix décents. Alors, il y a aussi l'impact environnemental. On sait que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts, pas uniquement à cause du cacao, mais en grande partie à cause de ce cacao qui, je le rappelle, a été importé par la colonisation. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui pour concilier lutte contre la déforestation et culture du cacao? Parce que, ce que l'on entendait dans le reportage là n'est pas forcément réplicable à l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on parle de cacao sauvage.
Oui, tout à fait. Les modèles, ces modèles qu'on appelle Cabruca au Brésil et qui sont réputés pour leur qualité environnementale, ils tiennent à la fois à l'existence de cacaoyers natifs et à des pratiques agricoles qui consistent à développer la culture sous une couverture forestière naturelle. Aujourd'hui, au Ghana et en Côte d'Ivoire, on parle plutôt de restaurer la couverture forestière. L'autre aspect qu'il faut avoir en tête, c'est que la déforestation du cacao, c'est pas une déforestation progressive. On ne grignote pas petit à petit la forêt pour étendre des champs de cacao. C'est une déforestation par cycle. Ça a été bien démontré par un certain nombre de chercheurs, notamment par François Ruff. Tous les 30 ans, en gros, qui est la durée de vie moyenne d'une exploitation de cacao, on défriche d'immenses régions pour implanter des nouveaux champs de cacao, plutôt que de renouveler les anciens champs de cacao qui arrivent en fin de production. Et aujourd'hui, on est en fin de cycle. En gros, il y a un cycle qui a commencé au début des années 90. On a déforesté des régions entières, effectivement, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ces plantations arrivent en bout de course. L'enjeu, c'est réussir à renouveler ces plantations, notamment en apportant du capital aux producteurs, en apportant l'argent, plutôt que d'aller défricher des nouvelles zones forestières, par exemple dans des pays comme le Brésil, qui aujourd'hui n'est pas un grand pays producteur de cacao, mais qui pourrait le devenir dans les prochaines années, et éventuellement au détriment de ces forêts, ce qui est bien sûr quelque chose à éviter à tout prix.
Et il y a d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, du coup, compte tenu de ce contexte de renouvellement, qui se mobilisent sur cette culture aujourd'hui?
Alors, l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, aujourd'hui, a peu de forêts et d'espaces qui pourraient être menacés par l'extension du cacao, puisqu'elles ont déjà fait les frais des développements précédents. On a plutôt, je dirais, des pays d'Afrique centrale aujourd'hui, comme le Gabon, comme la République du Congo, la République démocratique du Congo, dans une moindre mesure, qui ont annoncé déjà depuis quelques années des grands plans de développement ou de redéveloppement, puisque c'est des pays qui ont été historiquement aussi producteurs de cacao et qu'ils sont encore de manière assez marginale de production de cacao. Notamment au Gabon, on sait que le pays compte beaucoup sur le développement de la rente agricole pour remplacer la rente pétrolière qui pourrait se tarir. Et le cacao fait partie des commodités qui sont envisagées avec l'huile de palme et d'autres.
Alors la Côte d'Ivoire a adopté en 2019 un nouveau code forestier, une nouvelle stratégie pour essayer d'allier justement reboisement et maintien de l'agriculture. Le Ghana aussi a pris des dispositions dans ce sens. On pourrait dire quand même que les choses évoluent positivement. Il y a une prise de conscience depuis quelque temps.
Il y a une prise de conscience générale sur les, je dirais, les enjeux environnementaux de la culture du cacao depuis quelques années, qui ne se traduit pas forcément en actes aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a un changement de discours. Et je pense que c'est dû à cette conjonction d'une prise de conscience réelle de la part des responsables sur l'impact environnemental, sur les questions du changement climatique, etc. Et puis de la nécessité de trouver des voies de sortie dans un secteur qui est en crise. En Côte d'Ivoire et au Ghana, aujourd'hui, il y a le problème de l'âge des plantations, il y a le problème des maladies qui se développent, il y a le problème du renouvellement aussi des producteurs de cacao. Beaucoup d'enfants de producteurs et de productrices ne souhaitent pas reprendre les exploitations de cacao. Donc, si ces pays veulent rester des producteurs de cacao, je dirais, leaders sur le marché, s'ils veulent que le cacao continue à constituer une part importante de leur PIB, il faut qu'ils arrivent à encourager leurs producteurs et à maintenir la production dans le pays. Et donc, ça passe par des politiques en faveur des producteurs, mais aussi en faveur de l'environnement, puisqu'on sait que le changement climatique est une menace réelle qui pèse sur la production de cacao pour les prochaines décennies.
Mais quel type de politique, par exemple ?
Ces politiques, elles sont foncières, donc elles touchent au droit du sol. Le Ghana a notamment adopté une réforme foncière il y a 2 ans. La Côte d'Ivoire y travaille également, c'est-à-dire garantir plus de droits aux producteurs sur les parcelles qu'ils exploitent pour leur donner envie de rester, pour leur donner envie aussi de les transmettre aux générations suivantes. C'est des réformes de protection de la forêt pour encourager la plantation d'arbres, mais aussi décourager le déboisement des dernières zones. Et puis, c'est des politiques sociales et commerciales. Le Ghana a depuis longtemps un prix minimum aux producteurs. La Côte d'Ivoire l'a mis en place en 2013. Donc, il faut alimenter des caisses de stabilité, comme on les appelle, qui permettent de garantir, en dépit des évolutions des cours mondiaux du cacao, un prix minimum payé aux producteurs. Et puis, dernier aspect très important, enjeu pour les prochaines années, c'est la relocalisation des stocks de cacao. Le cacao se stocke. Il y a des stocks colossaux de cacao aujourd'hui qui sont dans les ports d'Amsterdam, dans les ports d'Amérique du Nord, etc., et qui appartiennent à des entreprises européennes. Donc, l'enjeu, c'est de relocaliser ces stocks dans les ports du Ghana, de la Côte d'Ivoire, pour que les pays producteurs gardent la maîtrise des cours du cacao, en tout cas reprennent une part de la maîtrise des cours du cacao.
Voilà, on aura levé un petit peu les secrets qui se cachent derrière le carré de chocolat. Merci beaucoup Frédéric Amiel pour toutes ces explications. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
En sol majeur,